RFI, 8h30, à Paris, 7h30 à Conakry, en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau point sur l'actualité africaine avec vous, Nemo Rampis.
Et à la une, Julien, en Guinée, Seloud Alain Diallo, bientôt inculpé pour corruption dans l'affaire dite Air Guinée, son parti, l'UFDG, dénonce des manœuvres politiques qui visent à laisser le champ libre à Mamadi Doumbouya pour se maintenir à la tête du pays, une dizaine de jours également après la suspension de plusieurs partis. La fondation Konrad Adenauer présente la montée en puissance des terroristes dans le nord du Bénin et du Togo comme lente et méthodique. On décortique le rapport dans ce journal. Un tournant majeur, mais pas encore la fin de la guerre au Soudan. La prise du palais présidentiel par l'armée est une avancée significative, mais les FSR ne disent pas leur dernier mot et pourraient concentrer leurs efforts sur la ville d'El Fasher. En ce 22 mars, journée de l'eau, on s'intéresse à la technique du dessalement. L'Algérie, notamment, mise beaucoup dessus. Et puis vous entendrez Kirsty Coventry, la Zimbabwéenne, élue cette semaine à la tête du Comité international olympique. Une nouvelle plus que réjouissante pour l'avenir du sport africain, dit-elle. Le début de ce journal en Guinée, donc, où hier la Cour anticorruption a confirmé la future inculpation de Seloud Alain Diallo, le président de l'UFDG, principal parti d'opposition. Il est accusé de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux ou encore d'enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée. L'ancienne compagnie aérienne a cédé dans des conditions jugées suspectes. Une inculpation qui survient quelques jours seulement après la suspension des plus importants partis politiques du pays. L'UFDG y voit donc un acte purement politique pour éliminer les poids lourds de la scène politique du pays. Explication Sidi Yansani.
C'est une affaire qui colle aux semelles de Seloud Alain Diallo depuis deux décennies. Alors qu'il est ministre des Travaux publics et des Transports sous la présidence du général Lansana Conté, Dalin est chargé de vendre des appareils de la flotte Air Guinée, compagnie aérienne fondée peu après l'indépendance, motif de fierté de la Guinée révolutionnaire de Sékou Touré et dissoute dans les années 2000. Depuis, le président de l'UFDG est régulièrement visé par ses concurrents politiques pour son rôle dans cette disparition. Peu après son putsch en 2021, la junte du CNRD installe la CRIEF qui rouvre plusieurs vieux dossiers judiciaires, dont celui d'Air Guinée. Une raison supplémentaire pour Seloud Alain Diallo de s'exiler après avoir vu sa maison à Conakry être rasée sur ordre des nouvelles autorités. Son parti, l'UFDG, souligne à RFI que son président n'a été entendu ni par la justice guinéenne ni par une juridiction supranationale et dénonce des manœuvres politiques visant à laisser le champ libre au général Mamadi Doumbouya, qui a le soutien officiel de sa junte et du gouvernement de transition pour se maintenir à la tête du pays.
La fondation Konrad Adenauer alerte sur les situations sécuritaires dans le nord du Togo et du Bénin, deux régions en proie depuis plusieurs années à la menace terroriste. Leur avancée est claire, affirme le rapport, même si elle peut avoir tendance à passer inaperçue de par sa lenteur. Exemple côté togolais, dans la région des savanes frontalières du Burkina Faso, la première attaque terroriste remonte à mai 2022. Elle visait un poste militaire et depuis, l'insécurité persiste. Magali Lagrange.
Le délai le plus long entre deux attaques dans l'extrême nord du Togo se compte en semaines et non en mois, selon le rapport de la fondation Konrad Adenauer. Ces attaques visent des positions militaires, mais aussi des villages, et se doublent de l'utilisation d'engins explosifs improvisés qui rendent dangereux les déplacements dans certaines zones de la préfecture de Pendjal, la plus touchée par l'insécurité. Depuis l'an dernier, poursuit le texte, la zone d'action des terroristes s'est étendue, auparavant cantonnée aux zones frontalières. Elle concerne désormais le canton du Borgou, qui ne touche pas le Burkina Faso, le Faso où est basée la Katiba active dans cette région, affiliée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le rapport relève que le Togo a pourtant commencé à sécuriser sa frontière nord fin 2018. Le gouvernement a aussi mis en place désormais l'opération militaire Kondjoaré et un plan d'urgence pour la région des savanes. La montée en puissance des terroristes dans la zone, que le texte qualifie de lente et méthodique, a désorganisé les modes de vie des populations dans une région déjà fragile, avec de nombreuses conséquences sur l'économie locale, notamment sur l'agriculture.
Au Niger, le gouvernement de transition annonce un nouveau massacre de civils. Selon un communiqué lu à la télévision d'État ce vendredi soir, au moins 44 civils ont été tués dans une attaque djihadiste contre un village dans la zone des trois frontières dans le sud-ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur accuse des membres de l'État islamique d'avoir encerclé une mosquée et massacré les fidèles en pleine prière du début d'après-midi, puis d'avoir incendié le marché et des habitations. Il y a aussi 13 blessés, un deuil de 72 heures débute ce samedi. Presque deux ans désormais après le début de la guerre entre paramilitaires, FSR et armée régulière au Soudan, cette dernière a repris hier matin le contrôle du palais présidentiel à Khartoum aux mains des forces de soutien rapide depuis avril 2023. Une avancée significative après des semaines d'opérations pour reconquérir la capitale qui ne signe pas pour autant la fin du conflit. Explication Paul Lorgerie.
Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en treillis, accompagnés de jeunes volontaires coiffés de bandeaux qui paradent dans l'enceinte d'un palais présidentiel en ruine. Après d'âpres combats, la reprise du lieu du pouvoir soudanais est, je cite, un coup dur pour les forces de soutien rapide du général Emeti, selon Alan Boswell de l'International Crisis Group, qui précise que cela marque un tournant majeur dans la guerre au Soudan. Les hommes du général Emeti ne comptent pour autant pas en rester là. Dans un communiqué, les FSR font savoir que la bataille pour le palais présidentiel n'est pas terminé. Et si leur empreinte à Khartoum se réduit, Roland Marshall, chercheur à Sciences Po, présage qu'un redéploiement pourrait s'opérer.
Une bonne partie des hommes et peut-être un peu de matériel va réussir à quitter Khartoum et se replier vers l'ouest du pays. Et que là-bas, le nombre de combattants des forces de soutien rapide sont beaucoup plus importants et peuvent permettre des combats acharnés et peut-être une contre-offensive.
En position de force, le général Al-Burhan a déclaré hier soir qu'aucune négociation n'aurait lieu avec les FSR, car les regards sont également tournés vers El-Fasher, capitale du Darfour du Nord, qui résiste tant bien que mal aux assauts répétés des paramilitaires depuis le début de la guerre. Selon Roland Marshall, les FSR pourraient y concentrer leurs efforts. Une conquête qui, je cite, donnerait une cohérence politique et territoriale à l'existence d'un gouvernement parallèle.
Paul Lorgerie, le nord d'El-Fasher justement, où ont éclaté de violents combats ce jeudi pour le contrôle d'une localité qui, si elle tombait, couperait un axe d'approvisionnement pour l'armée selon le média Sudan War Monitor. Au Nigeria, la crise se prolonge dans l'état de Rivers. Voilà plusieurs mois qu'un conflit s'enlise entre l'ancien et l'actuel gouverneur de cet état pétrolier du sud du pays. Jeudi, le Parlement a approuvé la motion d'état d'urgence déclarée mardi soir par le président en personne, Bola Tinubu, mais son adoption est loin de faire l'unanimité et même vivement contestée. Wely Diallo.
L'avocat et militant de la société civile, Dele Farotimi, pointe du doigt sur X l'irrégularité du vote de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution, ce texte doit être adopté à la majorité des deux tiers, mais les deux chambres ont tenu un vote à main levée qui n'a pas permis de comptabiliser les votes de manière précise. Autre critique, au sein de la classe politique et parmi les juristes, la décision par le président Bola Tinubu de suspendre le gouverneur Fubara, son adjoint et les membres de l'Assemblée législative de l'État de Rivers. La Constitution du Nigeria ne précise pas si le président dispose de tels droits en cas d'état d'urgence. Dès mercredi et avant même le vote du Parlement, le président Tinubu a mis en œuvre ses décisions et investi Ibok Eteibas comme le nouveau gouverneur de Rivers. Avec l'approbation du Parlement, il va donc remplacer Siménalayi Fubara pendant les 6 prochains mois. L'état d'urgence entre en vigueur à la suite d'un conflit politique dans l'État entre le gouverneur Fubara et son prédécesseur Nyesom Wike. Les tensions entre les deux hommes se sont multipliées au point de paralyser l'Assemblée fédérale divisée entre les deux camps.
Les explications de Wely Diallo. Nous sommes le samedi 22 mars. C'est à cette date que chaque année est célébrée la journée mondiale de l'eau. Alors que près de la moitié des habitants de la planète sont toujours confrontés à des pénuries au moins un mois dans l'année, en cause d'une demande au plus haut et un produit qui se raréfie, notamment à cause du dérèglement climatique provoqué par les activités humaines. Certains pays se tournent donc vers d'autres solutions pour obtenir de l'eau potable, notamment vers le dessalement. Les pays du Golfe ou encore l'Espagne font partie des plus grands producteurs d'eau dessalée, mais le Maghreb aussi investit de plus en plus dans ce secteur. Justine Fontaine, l'Algérie vient d'inaugurer 4 usines de dessalement en l'espace d'un mois.
Une cinquième est même en phase d'essai et devrait entrer en service prochainement dans la région de Béjaïa. Investissement total, 400 milliards de dinars, c'est-à-dire 2,5 milliards d'euros environ. Des chantiers confiés principalement à des filiales de la Sonatrach, la gigantesque compagnie pétro-gazière publique. De quoi permettre de quasiment doubler la capacité de production d'eau dessalée du pays. Et le président algérien Abdelmajid Tebboune prévoit de lancer l'an prochain 5 ou 6 projets d'usines supplémentaires. Objectif, répondre à 60% des besoins du pays en eau potable à partir de 2030. Dans le monde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël ou encore l'Espagne font partie des leaders du dessalement d'eau. Au Maghreb, le Maroc, touché par une sécheresse historique, a pour sa part annoncé fin octobre qu'il va construire la plus grande usine de dessalement d'Afrique. C'est pourtant loin d'être une solution miracle. Même si des progrès ont été faits, le dessalement consomme beaucoup d'énergie, en écrasante majorité du pétrole et du gaz, ce qui contribue donc à aggraver le réchauffement climatique. Enfin, les usines rejettent de l'eau très salée, parfois chargée en produits chimiques, ce qui affecte la biodiversité marine.
Et j'ajoute que malgré cela, le marché de l'eau dessalée devrait doubler d'ici à 2031. C'était les explications de Justine Fontaine du service économie de Radio France Internationale. Et puis c'est la nouvelle réjouissante pour le sport africain de la semaine, l'élection de Kirsty Coventry à la présidence du CIO, le Comité International Olympique, première femme qui accède à un tel rang, première représentante du continent africain également, la Zimbabwéenne, double championne olympique de natation à Athènes puis à Pékin, a obtenu 49 voix des 97 suffrages exprimés. Son élection à la tête du CIO a été chaudement accueillie par le monde du sport africain qui espère voir son développement s'accélérer. À ce sujet, Kirsty Coventry s'est exprimée au micro de Christophe Diremzian dans la foulée de sa nomination.
L'Union africaine en particulier, ainsi que les chefs d'État des pays africains ces dernières années, ont accordé beaucoup plus d'importance au rôle que le sport peut jouer dans la construction de communautés, dans la réduction des coûts des soins de santé. Les athlètes sont des membres très importants de la société. Ils apportent l'inspiration, ils apportent l'espoir. Donc on va pouvoir prendre soin de nos athlètes, les soutenir, s'assurer qu'ils ont les bonnes infrastructures. Ce sont tous les messages et toutes les conversations que j'ai hâte d'avoir avec le continent africain sur la façon dont nous pouvons continuer à renforcer tous ces axes afin que nos athlètes puissent vivre, s'entraîner et réussir de chez eux.
Kirsty Coventry au micro de Christophe Diremzian, extrait d'un entretien exclusif depuis Costa